Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs remontés à bloc. J'ai le plaisir de retrouver Marie.
Salut,
salut Marie.
Salut.
Julien. Salut Julien.
Salut Clémence.
Stéphane.
Salut Clémence. Je regardais Julien qui faisait, qui prenait l'inspiration pour dire salut.
Oui, il est très inspiré.
Quoi bah ouais. Je prépare mes entrées, moi.
À la technique, celui qui est aux premières loges pour nous écouter râler et faire des blagues de très bon goût. C'est pas facile tous les jours, mais il nous supporte. Bonjour Alain.
Salut Clémence.
Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, ça va être un carnage. Et c'est même pas moi qui le dis, hein. Let There Be Carnage, c'est le sous-titre de Venom 2 qui débarque dans les salles cette semaine et dont on va parler aujourd'hui. On y retrouve Tom Hardy, alias Eddie Brock, qui cohabite toujours avec le symbiote Venom. Ces deux-là ont une petite vie de couple, tranquille, quelques engueulades par-ci par-là. Hein. Non, Venom, on ne mange pas les gens. Mais bon, globalement, ça va. Jusqu'au jour où Eddie croise la route de Cletus Kasady, un tueur en série qui va devenir l'hôte d'un autre symbiote, le fameux Carnage. Pour ce deuxième film du Sony Pictures Universe of Marvel Characters, on change de réal. Ruben Fleischer, qui avait mis en scène Venom, le premier opus de la série, n'était pas dispo, et c'est donc Andy Serkis qui reprend le flambeau. Andy Serkis, ou plutôt Monsieur Motion Capture, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, c'était lui, César dans La Planète des Singes, c'était lui aussi, mais Andy est également actif derrière la caméra, puisqu'on lui doit Breathe en 2017 et Mowgli, la légende de la jungle, en 2018. Côté casting, on retrouve Tom Hardy donc, mais aussi Woody Harrelson dans le rôle du grand méchant qui héberge le symbiote Carnage, et puis aussi Naomi Harris, Michelle Williams et J.K. Simmons. En 2018, Venom avait connu un immense succès commercial malgré les mauvaises critiques de la presse. Il aurait rapporté plus de 850 millions de dollars de recettes mondiales. Est-ce que cette suite rencontrera le même succès auprès du public ? Venom 2 sort dans les salles françaises aujourd'hui, donc du côté des spectateurs, on va bientôt le savoir. Mais côté critique, eh bien notre fine équipe va nous le dire tout de suite. Venom 2, est-ce qu'on va le voir au cinéma ? Attention, vous pouvez répondre juste par oui ou par non, on détaillera après. Julien ?
Non, bah non, non, bah non.
Marie ?
Non plus.
Non.
Non, bon, vous savez à quoi vous en tenir. Si vous ne voulez pas perdre votre temps, n'allez pas voir Venom 2 au cinéma, mais vous pouvez toujours nous écouter en parler. Bon, Venom 2, on ne va pas voir au cinéma, c'est sûr. Qui commence ? Qui lance les hostilités ? Julien, je te vois...
Pourquoi moi ?
Bah sinon moi je veux bien commencer.
Vas-y Marie, commence.
Moi j'ai pas grand chose à dire, donc ça va aller vite.
Hein.
Mais en fait j'étais presque à deux doigts de dire oui, allez le voir, parce qu'en fait c'est presque un cas d'école tellement il y a rien qui marche dans ce film. Enfin je sais pas, moi j'ai pas compris à qui ça s'adressait. En fait à la base, déjà pour le premier Venom qui était déjà pas bien, il voulait partir sur un film rated R qui était donc censé être comme Logan ou comme Deadpool avec plus de violence et tout, et ils sont partis sur du PG-13 pour pas perdre le grand public, les enfants et tout. Du coup c'est des films qui sont censés être comiques. En fait moi ce film là il m'a fait penser à la scène du homard du premier, et enfin la scène des homards étirée sur tout le film en fait, où Venom devient le ressort.
Putain, ce serait bien hein.
Ah mais moi j'avais trouvé ça, non mais la scène des homards j'avais déjà trouvé ça tout pourri en fait, et
ouais mais au moins c'est c'était, il se passait un truc, quoi. Enfin, vas-y, pardon.
Mais du coup, ouais, moi, je trouve que, en fait, c'est un film qui est censé être drôle, parce que Venom devient le ressort comique du film, en fait. Il n'y a pas du tout la noirceur de Venom. Il n'y a pas. En fait, même avec Andy Serkis à la réal, je me disais, mais il y a peut-être un truc avec Gollum, Smeagol, machin. Il y a peut-être. Il y aura peut-être quelque chose sur la dualité, le personnage déchiré entre lui-même, entre Lot, machin. En fait, non, pas du tout. Il n'y a pas du tout ça. C'est juste. Il y a des scènes de. Bah, tu t'en parlais tout à l'heure, c'est presque des scènes de comédie romantique, en fait, entre les deux, avec des trucs ultra gênants. J'étais très, très gênée pour Tom Hardy, en fait. Je comprends pas trop ce qu'il fait là, surtout qu'il est un peu à l'origine de. Enfin, il produit, il est à l'origine de l'histoire et tout.
Ah, c'est son bébé,
ah
hein.
Ouais, c'est. Et il a signé pour 3 films, donc il est bien dedans jusqu'au cou, et il a l'air très content d'y être. Et moi, je comprends pas, en fait. J'ai jamais vu. En fait, c'est censé être drôle, et j'ai jamais vu autant de blagues tomber à côté. J'ai pas ri une seule fois. La seule fois où j'ai ri, c'est de gêne, en fait, mais vraiment, j'ai ri du film et pas avec le film. Et ouais, je comprends pas à qui ce film est destiné, parce que moi, j'ai pas lu les comics, mais je pense que vous en parlerez peut-être vous après mieux que moi, mais. Je pense que ça peut pas satisfaire les lecteurs de comics. Je pense pas que ce soit un film pour enfants, ou alors on prend vraiment les enfants pour des idiots, et c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont idiots, et il faut pas leur montrer des choses comme ça non plus. Donc en fait, je sais pas, et le film marche très bien aux États-Unis, je comprends pas. Et c'est comme pour le premier, je comprends pas, quoi.
Il marche dans le contexte, parce qu'il est, pour l'instant, il a fait quand même beaucoup, beaucoup moins que le premier. Hein, donc il faudra quand même voir, parce que là, l'exploitation a déjà chuté, hein, tu vois. Donc évidemment, ça fait des chiffres comme ça qui sont impressionnants dès le début et tout. Il faut quand même voir sur la longueur si ça va tenir le coup, quoi.
Tu peux tout à fait enchaîner, sauf si Marie a quelque chose à.
Ah bah moi j'ai dit que j'avais vraiment pas grand chose à dire, tellement je sais pas quoi faire de ce film, quoi.
Mais je pense que c'est vachement dur de dire. On a un collègue qui s'appelle Simon Rio, là, qui aime bien, quand il sort des salles, il aime bien se fendre d'un petit tweet au langage fleuri et aux métaphores printanières. Et puis là, sur Venom, il a lancé un truc, alors je ne me rappelle plus, j'aurais peut-être dû le ressortir pour le préparer, mais vous le retrouverez facilement si ça vous intéresse, en disant « ouais, c'est une honte ». Enfin, ce n'est pas une honte, mais il dit « c'est un truc de fausse sceptique enfin, », comme si c'était une espèce de... d'immondice ubuesque, comme ça, un truc monumental, vraiment, voilà. Ben moi, j'aimerais bien que ce soit le cas, en fait. Hein, j'aimerais bien, parce que, je veux dire, les ratages, un beau gros ratage, c'est génial, hein, c'est beau, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui tombe dans la rue, qui tombe juste, et voilà, qui sont un peu mal, bon, voilà, mais qui tombe bien, tu vois, qui tombe en glissant, comme ça, qui essaie de se rattraper et tout. C'est beau, c'est drôle, quoi. Là, tu rigoles, il se passe quelque chose, quoi. Là, il se passe rien. Il tombe même pas, en fait. Je sais pas si ma métaphore, du coup, est parlante, mais il tombe pas, il y a rien, c'est morne. C'est un film, il y a rien. Moi, ce qui m'étonne, en fait, là-dedans, c'est que les mecs, et quand je parle des mecs, c'est le studio, Sony, ils arrivent à prendre des talents, quand même, c'est pas rien. Gert Tom Hardy, c'est pas rien. Woody Harrelson, c'est pas rien. Andy Serkis, c'est pas rien.
À la base, le casting est quand même...
Robert Richardson... Putain, c'est pas rien, quoi. Enfin, je sais, c'est pas
Beltrami
rien.
Beltrami à la musique.
Beltrami à la musique.
Moi, je suis incapable de me rappeler du thème du film, quoi.
Je veux dire, Beltrami, il y avait Numéris aussi qui est dans le casting et tout. Je veux dire, c'est des talents, ça. C'est des gens, ils trimballent des trucs. Ils ont de la puissance. Avec un truc, en plus, comme Venom. Venom, c'est, comme l'a dit Marie, c'est normalement, c'est un personnage qui brise de ce que je connais du personnage. Moi, je suis pas un très gros connaisseur du personnage en comics, mais dans ce que j'ai lu notamment chez Todd McFarlane et tout, c'est un personnage qui brise toutes les barrières, qui a aucune inhibition, et ils arrivent à en faire un truc tout morne. C'est tout morne. C'est on te dit, en fait, Venom 2, c'est on te dit, tiens, tu vas bouffer une bonne entrecôte bien saignante là, machin, et en fait, c'est une saucisse Herta, quoi. Il y a même pas de porc là-dedans, c'est que de la farine, quoi, dégueulasse. Cuite,
en même temps, t'aurais du porc dans l'entrecôte.
C'est enfin voilà, quoi. C'est je veux dire, c'est donc voilà, il y a pas grand chose, je trouve, effectivement, à dire au-delà de ça. J'ai surtout il y a un autre terme aussi que j'entends beaucoup sur le film, et je terminerai là-dessus parce que je sens que par contre Stéphane il a à dire, mais qui est bouillie numérique. Et c'est pareil. Moi, je veux dire, donnez-nous de la vraie bouillie numérique. Je veux dire, donnez-nous du Loup-Garou de Paris, du Spawn, du Mortal Kombat 2. Enfin, des trucs vraiment où les effets spéciaux, ils sont tout dégueulasses. Et puis voilà. Parce que ça, c'est rigolo, moi. Tu te marres, tu revois l'écran, tu dis « Waouh !» Moi, je vois l'écran, là, quand je vois Venom, et puis j'attends que ça se passe, quoi. Et puis, il n'y a rien qui me choque, il n'y a rien qui fait rire, effectivement. Il n'y a pas de scène impressionnante. Tu sens que c'est encore un film, tu n'as qu'à peur de choquer. Et ce qui est totalement paradoxal, quand tu vois d'une part, encore une fois, les talents impliqués, qui sont quand même pour beaucoup connus comme des personnages un peu rebelles et tout, qui ont bousculé les normes, qui ont bousculé la technologie au cinéma et tout. Et puis, quand tu vois le sujet même, en fait, de Venom. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on se demande à qui ça s'adresse, quoi. Moi, je comprends pas trop. Déjà, le fait que le premier n'ait pas été un échec, c'est, pour moi, c'était super étonnant.
Il y a eu vraiment une division entre les critiques, d'une part, qui clairement avaient leur avis sur le film, et le fait que, de l'autre côté, le public a quand même accueilli ça.
Mais pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qu'ils trouvent là-dedans, les gens, en fait ? C'est une vraie question que je me pose. Hein. Ce serait intéressant s'il y a des gens qui ont pris du plaisir au premier film qui nous disent, hein, dans les réactions, parce que, pour moi, c'est une vraie question. Je ne pose pas cette question avec de la condescendance, c'est une vraie incompréhension. Je ne comprends pas ça. Moi, j'y allais aussi pour Serkis. Peut-être un tout petit peu là-dessus, Steph, avant que tu parles, je suis désolé, mais moi, Serkis, alors déjà, j'avais vu son livre de la jungle, qui est un film à problème, qui est sur Netflix encore, qui est un film qui a des problèmes, tu sens que ça n'a pas été produit à la hauteur de ce que ça aurait dû, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, surtout quand tu connais le Kipling et tout, et c'est vraiment bien, quoi. Et puis, il y avait une vraie, c'est quand même un mec qui a, il n'y en a pas beaucoup comme ça, qui, moi, je considère, sont des auteurs dans la technologie dont ils sont emparés. Il a une vision, c'est une évidence. Moi, j'ai interviewé deux fois quand il te parle de César, quand il te parle de Gollum, ou du Capitaine Haddock, il a une vision, il ferait pas ces trucs, il accomplirait pas des exploits pareils. Et Venom, c'est idéal pour ça. C'est de la capture de mouvement en live, en direct, c'est-à-dire un acteur que tu tournes de façon traditionnelle et un acteur qui interprète un personnage. Bon, il n'y a pas de capture de mouvement dans Venom, mais tu vois l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une duplicité directement, effectivement, comme disait Marie sur le truc. Mais même ça, c'est hyper mal. Ça m'a fait penser à Men in Black 2. Il y a un monstre que j'aime pas du tout. Les monstres sont super dans Men in Black 2, mais il y en a un que j'aime pas du tout, qui est joué par le Jackass, là.
Qui est oui, Johnny Knoxville.
Qui a une tête en fait qui sort et tu sais pas trop d'où elle sort la tête, du coup il marche pas. Et là c'est un peu pareil aussi Venom. Organiquement c'est un personnage, mais c'était le cas, hein, déjà dans le premier, mais je trouve qu'il fonctionne pas en fait. Il peut sortir de partout, mais tu comprends pas trop du coup comment ça vous a pas fait ça aussi. Il se balade comme ça. Il sort de sa tête, sortir de son cul, ce serait pareil.
Il apparaît de plein de manières différentes, quoi. Il n'y a pas trop de logique à ça. Un coup, il est dans son cou, un coup, il prend sa tête directement.
Il
n'y
a pas d'ancrage organique, c'est ce que je veux dire. Tu vois, surtout, il n'y a pas de lien, en fait, entre les deux. Bon, bref.
Bah, ouais, ce qui est compliqué, en fait, avec un film comme ça, c'est que effectivement, qui se fait parce qu'il y a un carton avec le précédent, quoi, qui est un carton, bon, déjà, qui, à mon avis, est à moitié imputable aux Chinois, au marché chinois, ou les trucs comme ça, parce que, en fait, c'est le genre de film, en fait, qui marche là-bas.
Ça fait cartonner aux États-Unis.
Le public américain, manifestement...
Parce que c'est un personnage extrêmement populaire, Venom. Hein.
Le public américain plébiscite aussi le film 2. A priori, il y a des critiques qui disent qu'il est meilleur que le premier.
Ouais, alors au Royaume des Aveugles, les banques sont rois, mais le truc, c'est que moi, je le trouve meilleur que le premier, mais pour une seule raison, en fait, c'est que, à part la scène, parce que le premier, pour moi, c'était une catastrophe, et à part la scène, éventuellement, où il bouffe des homards, là, où il se jette dans le tanker pour bouffer des homards, qui est... Moi, j'ai l'impression de regarder, les connaisseurs... confirmeront ou pas, mais j'ai l'impression de regarder un Wong Jing, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression de regarder un film chinois des années 90 complètement foireux, là. Et voilà, il n'y a pas ça. Sauf que, en fait, tu sens que c'est ce genre de scène-là que les mecs voulaient vraiment, effectivement, répéter, tu vois, pendant ce film-là. En tout cas, cette relation entre, en tout cas, Tom Hardy et Venom. Et le problème de cette relation, c'est que, c'est peut-être, en tout cas, le seul truc auquel tu peux un peu croire, puisque c'est le seul truc où tu as l'impression qu'ils ont vraiment cherché à pousser. Sauf que, je sais pas lequel d'entre nous, il y a quelqu'un qui a dit en sortant du film, quand on discutait, parce qu'on l'a tous vu ensemble en projo, mais en fait, c'est pour les enfants.
C'est moi qui ai dit ça.
Et c'est totalement vrai, parce que moi, ça m'a débloqué, en fait. D'un seul coup, j'ai compris le projet. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis vraiment dit, Ah oui, en fait, je peux pas. C'est pas tellement, encore une fois, effectivement, comme l'a dit Marie, c'est pas l'idée en fait de dire que comme c'est un film pour enfants, forcément c'est bas du front. C'est pas ça la logique, mais c'est tellement. Les enjeux sont tellement au ras des pâquerettes, sont tellement du. Enfin, c'est même plus de la naïveté à ce niveau-là.
Il n'y a pas vraiment d'enjeu en fait. Ouais.
Donc on se retrouve dans un espèce de système. Moi ça me fait discuter en fait la problématique de comment est-ce qu'on considère le cinéma aujourd'hui de manière générale. C'est-à-dire que en gros, il y a quand les gens te disent en fait le cinéma, il y en a marre de voir des films de super-héros, t'as plein de gens qui te répondent en général oui, mais si tu veux aller voir, il y a ça, tu peux aller voir tel autre film, tu peux aller voir Annette de Léo Scarrax, tu peux aller voir tu vois la Palme d'Or, tu peux aller voir tout ça, etc. Mais en vrai, quand les gens disent on en a marre de voir les films de super-héros, les films de super-héros, c'est le cinéma, c'est que tout fonctionne en fait en termes de comparatif à ça. C'est-à-dire t'as Marvel, t'as DC, et puis après t'as tous les trucs à côté en fait qui essayent de fonctionner dans ce sillage-là. Y compris en allant chercher des stars comme Tom Hardy. Et Tom Hardy lui-même, je pense, en fait, s'il est producteur sur un film comme ça, c'est que déjà, un, il n'était pas forcément, je crois, sur le premier, et il s'est fait enlever la plupart des scènes, il n'était pas content, il l'a dit hein, ouvertement pendant la promo du premier film. Donc là, à mon avis, ils lui ont dit, bon. C'est quoi le film, il a cartonné, donc voilà ton poste de producteur. Et je pense en fait ce qui s'est passé, c'est que lui, ce qui l'intéressait, c'était de jouer le personnage. Je pense qu'il n'a pas vraiment cherché à savoir si ça s'inscrivait dans un grand plan général, quoi. Alors après, ça c'est peut-être son trip d'acteur. Moi je pense que c'est plutôt son trip de superstar, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça lui permet de s'asseoir un petit peu, tu vois, et de dire bah, je vais me faire de l'argent avec ça, ou je vais me faire une street cred auprès d'Hollywood avec ça, quoi. Parce que, enfin, je veux dire, c'est quand même le premier qui se foutait sur la gueule avec George Miller sur Mad Max, tu vois. Genre, s'il y a un chef-d'œuvre dans la carrière de Tom Hardy, ça sera celui-là, et pour le reste de sa vie, hein, probablement. Donc, le truc, c'est que si tu te dis que le mec il est censé avoir une exigence sur Mad Max Fury Road, tu te demandes pourquoi il en a pas une sur Venom 2, quoi, tu vois. Et donc, je pense que donc, son trip il est là, tu vois. Et bon, enfin, voilà, enfin, c'est moi, à mon avis, ça ne s'explique que comme ça et qu'une question financière. La problématique d'Andy Serkis, elle est ailleurs, par contre. C'est-à-dire que pour moi, normalement, un mec comme ça, vu le questionnement qu'il a sur comment t'es censé interpréter ce type de personnage-là, et vu comment lui il est capable d'être excellent dans des rôles en perf cap et généralement pas forcément génial dans tout, en tout cas pas mémorable en fait dans les films où il apparaît normalement, c'est-à-dire enfin il est filmé, enfin il est physiquement présent on va dire devant l'écran, c'est lui, c'est son enveloppe, etc., etc. Bah en gros si tu te dis il y a un truc où en fait où il arrive à transférer son âme littéralement en fait dans alors c'est un peu plus complexe que ça, je pense que Julien qui me regarde d'un œil torve, tu vois, ne sera pas forcément d'accord, mais en tout cas je pense qu'il y a cette
des choses dans ce podcast.
Non mais parce que en fait il y a cette dynamique en fait que tu te dis au moins à défaut de faire un film qui tienne debout, il y aurait au moins cette capacité à faire acheter ça. Et je pense que c'est pareil, je pense qu'en fait c'est le seul truc qui est plus ou moins entre guillemets réussi, c'est-à-dire pas sur le papier, pas à l'écriture, hein. Genre la relation bromance entre Eddie Brock et Venom, elle est juste catastrophique. Enfin, on a parié une seule fois, je crois. En fait, c'est vraiment foiré.
Salle n'a parié. Mais après, c'était une salle de journalistes. Hein,
mais les salles de journalistes.
Enfin,
moi, j'ai vu une salle de. J'ai vu Avengers dans une salle de journalistes où ils étaient tous morts de rire. Donc, en fait, ça fonctionne. Les journalistes de cinéma, quoi qu'on en dise, en fait, c'est le public. Et en fait, le truc avec ce film-là, c'est qu'effectivement, les gens n'ont pas rigolé parce qu'à mon avis, c'est pas des enfants.
Bah, t'as l'impression qu'il y a cette volonté de faire une espèce de buddy movie.
Oui.
Il y a vraiment ce truc, mais oui, non, ça ne marche pas.
Et moi, je connais des enfants, ils rigoleront pas à ça.
Oui, parce que tes enfants sont bien élevés.
Mais même au-delà de ça, en fait, c'est parce qu'effectivement, ça va pas assez loin ou quoi que ce soit, mais c'est surtout parce que, en gros, le relationnel, c'est en fait, machin, il est pas, en fait, c'est Venom qui part, en fait, quand il trouve des corps, il part, en fait, dans des rêves parties, quoi.
Ah, j'avais oublié ce moment ultra gênant.
Et tu te dis, mais qui a réfléchi à ça? Qui a en fait s'est dit tiens on va faire cette scène et cette scène elle va être cool, tu vois, et en admettant en fait, parce que moi c'est un personnage qui m'a toujours assez posé problème en fait, Venom dans le comics, c'est-à-dire que j'ai jamais trop trippé, et il y a tout ce truc en fait de questionnement autour de comment le traiter au cinéma qui s'est posé à l'époque de Spider-Man 3 de Sam Raimi, où en gros les gens étaient très peu satisfaits en fait du traitement du personnage, ce que je peux éventuellement comprendre si on aime la BD, mais en gros moi j'avais surtout un problème avec le l'interprète en fait, qui était, comment il s'appelle, Topher Grace. Qui était nul, et du coup comme c'est lui que tu voyais le plus en fait, en gros bah tu pouvais pas acheter trop le personnage de l'autre côté, mais le truc c'est que le design, le fonctionnement du personnage, ce qui servait dans le film, pour moi ça allait, c'est-à-dire la créature, hein, je parle vraiment de la créature, là, enfin je veux dire en 10 minutes je suis désolé de prêcher pour mon héros, mais tu vois, en 10 minutes, Sam Raimi arrive à faire ce que ni Serkis, ni Ruben Fleischer, ni je sais pas qui, en fait, ni Tom Hardy n'arrive à faire sur deux films d'une heure et demie chacun.
Et avec beaucoup plus d'argent, certes, mais une technologie qui était beaucoup, beaucoup moins évoluée qu'aujourd'hui, quoi.
Voilà, donc c'est un film, en fait, qui est effectivement, tu te dis, bah, en fait, parce qu'on a vite fait, on a dit son nom, mais Robert Richardson, faut peut-être préciser qui c'est quand même, hein, chef-op d'Oliver Stone, chef-op de Tarantino. Enfin, c'est un mec qui a une image.
Les flaques de lumière surexposées avec ses images hyper saturées, c'est lui.
Voilà, et
c'est un style qui se reconnaît.
Et c'est un style, en fait, qui est absolument. Alors, c'est très, très, comment dire, visuellement très, très tape à l'œil, entre guillemets, enfin, façon de parler, parce que moi, je trouve ça assez fort, quoi, ce qu'il fait. J'aime beaucoup, en tout cas, je suis très client, et là, en fait, c'est, mais pas. Enfin, du tout. Enfin, en fait, franchement, tu lis le générique, mais comme Beltrami, tu lis le générique à la fin, tu fais, ah putain, c'était eux. Mais d'où c'était eux. Et pour le coup, Richardson, c'est pas quelqu'un qui prend le chèque en général. Donc, c'est là où c'est on questionne. En fait, il y a un vrai questionnement de quel était leur intérêt, en fait, à eux, de faire, en fait, ce film-là, en Serkis et à Richardson, quoi.
Mais je pense qu'il y a peut-être possiblement un projet derrière tout ça qui a attiré ces talents-là. Je ne sais pas à quelle étape, on connaît pas la vérité, en fait, sur une production de ce type-là. Mais encore une fois, c'est, je pense, les notes de studio, la capacité des notes de studio à faire rentrer dans leur moule des talents aussi énormes et aussi avec autant de formes atypiques, quoi.
Alors j'en viens aussi à
c'est incroyable,
un deuxième truc, en fait, qui est quand même intéressant à noter sur ce film-là, quoi. Même si c'est dans le générique de fin, même si c'est une scénette très rapide.
J'allais y venir.
Voilà, il y a l'idée que, en fait, donc comme tu l'as précisé, en fait, et je sais pas si c'est un terme officiel. Comment tu l'as appelé, le Sony Pictures Marvel.
Oui, c'est le terme officiel.
C'est
ouais,
le
tout
terme
à fait.
Officiel. Putain, les mecs, ils à rallonge, quoi.
C'est le. Je vais te retrouver le nom à rallonge exprès. C'est le Sony Pictures Universe of Marvel Characters.
Voilà.
Donc là, c'est en gros c'est l'univers étendu.
J'en ai pas marre, moi j'en ai marre. Hein.
De Sony.
Personnellement j'en ai marre.
Non mais
on
en fait
d'autres choses, on peut parler d'autres choses. Attends, 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 c'est... Vous voulez pas qu'on parle d'autres choses.
Attends, on va terminer. Bah, c'est toi qui nous a dit, ah, les gars, il faut faire Venom. Hein.
Toi, c'est la cause de toi.
Ah oui, si, putain, merde.
Qui la faute.
Donc, voilà.
Et donc effectivement, ce film-là s'inscrit dans le cadre de cet univers Marvel via Sony, et il va y avoir un troisième film.
Et surtout, puisque en fait, ça s'inscrit dans le MCU maintenant. Si tu suis la logique des choses, puisque le générique de fin fait référence à des événements qui sont dans Spider-Man Far From Home.
Alors, c'est là
parce
où on spoil complètement.
Voilà, parce que t'as dit J.K. Simmons au début.
Effectivement, j'ai précisé que J.K. Simmons était au casting, puisque à la toute fin, dans la scène post-générique, qu'on a habituellement, maintenant on est tous habitués hein, dans ce genre de film de super-héros, ces scènes-là, on a la confirmation qu'il va y avoir un crossover entre Eddie Brock et Spider-Man, mais on ne sait pas encore comment. On sait juste
mais
que...
Mais je pense qu'ils ne savent pas comment non plus. Hein.
Venom apparaîtra dans Spider-Man No Way Home.
Il est censé apparaître dans No Way Home Venom.
On ne sait pas comment, mais officiellement.
D'accord.
Officiellement.
Donc, et donc, en fait, si tu veux, ça questionne un truc. Ça
moi,
veut dire que
je fais une tarte potiron raclette de Chandon. Je vais vous donner la recette. Si vous voulez, ce sera plus intéressant que Venom.
Non, mais en tout cas.
On entend parler un crossover entre.
Non, mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire d'un seul coup, donc le MCU récupère un personnage comme ça pour se dire, en gros, en fait, juste parce que ce personnage est populaire, eux, ils sont satisfaits par le traitement. C'est là où, en fait, où d'un seul coup, en fait, ça, moi, j'en reviens encore plus à questionner l'apport la logique artistique, en fait, d'une super méga franchise qui s'empile les unes sur les autres, comme le MCU, tu vois, parce que d'un seul coup, en fait,
je pense qu'il va apparaître dans les Spider-Man, mais pas forcément dans les Marveleries. Hein.
Mais les Spider-Man sont censés faire partir du MCU.
Ouais, mais enfin, c'est le point de liaison, en fait.
Oui.
C'est le point de liaison, mais...
Je pense que, tu vois, dans la suite, par exemple, de l'animé, il a été évoqué la possibilité d'avoir un croisement avec justement, le Spider-Man Live dans un des multivers. Et
mais
je pense
déjà,
que...
C'est
comme si t'avais le Marvel Sony...
Caractères...
Spider-Man, tarte au potimarron, raclette, universe. Et tu vois... T'as la porte de frontière qui est les Spider-Man où là effectivement il communique avec le Marvel, mais Venom il va pas se retrouver dans le prochain Captain America.
Sauf que encore une fois ce qui est rigolo donc c'est que t'as J.K. Simmons qui reprend le personnage de...
C'est aberrant. De toute façon c'était aberrant déjà dans le précédent Spider-Man.
Donc. Voilà de J. Jonah Jameson, tu vois. Donc là ça c'est ok, on prend ce qu'on veut chez Sam Raimi, on le remet, tu vois. Mais Venom, on n'en veut pas parce qu'en fait, cette nouvelle itération, finalement, elle est beaucoup plus populaire. Le Venom de Spider-Man 3, on n'en veut pas, on va prendre celui-là, tu vois. Donc en fait, à un moment donné, d'un seul coup, tous ces empilements de trucs, tu te dis, mais j'aimerais. Et là, pour le coup, c'est aussi une question, puisqu'on a l'air de poser des questions aux gens directement dans les commentaires pour qu'ils nous répondent. C'est aussi une question de, en fait, ça vous fait vraiment triper ? Est-ce que ça fait vraiment triper les gens ? De savoir que en fait un personnage comme Venom va se retrouver dans le Spider-Man du MCU, que le Spider-Man du MCU va se retrouver là-dedans. En fait, vraiment, il y a tous ces trucs. Et est-ce que c'est vraiment un enjeu intéressant où tu te dis c'est excitant, j'ai envie de voir ça en fait, si tu veux, dans le truc.
C'est une vraie question, parce que c'est vrai que tout ça nous est vendu. Enfin, je sais pas ce que si vous partagez mon avis là-dessus. J'espère que oui, quand même. Non, mais tout ça est vendu aussi par les titres des articles, quoi. C'est-à-dire que moi, je me souviens que le Let There Be Carnage, là, le truc avec cette séquence post-générique, je m'attendais à un truc et je me disais que ça doit être perçu par les gens comme un truc énorme parce que j'avais vu, je ne sais pas moi, sur Collider, peut-être même Vanity Fair, enfin j'en sais rien, mais tous ces trucs-là, j'avais vu des gros titres en disant oh là là, c'est vachement étonnant et c'est courageux et voilà, et ça annonce du lourd, quoi. Mais en fait, c'est vrai que tu te poses la question quand même, tu te dis, mais en dehors de ça, de ce truc qui te crée une espèce d'événement de toute pièce parce que les attachés de presse sont vraiment très forts du Marvel Universe, est-ce que le grand public tripe ça vraiment pour de vrai, en fait, au final? Non, vous voyez ce que je veux dire?
Moi, j'ai l'impression que c'est des trucs, comme tu dis, ouais, des titres d'articles, des trucs qui font du tweet et du retweet, et des ah, machin va apparaître dans tel film super longtemps à l'avance, et moi j'ai le temps d'oublier entre temps d'ici que le film sorte, quoi.
Tu vois, après, post-générique, alors... tu vois, à part le shawarma finalement des Avengers, ce que j'aime pas, moi, cette séquence post-générique, mais celle-là, je vois qu'elle a créé quelque chose à cette époque-là. Que tu le veuilles ou pas, que ça te fasse chier ou pas, ça a créé quelque chose. Mais les autres, ce genre d'annonce comme ça.
Bah, historiquement, pas, Venom, il est présent dans le Spider-Man univers.
Ah non, mais c'est un personnage Marvel, de toute évidence. Mais comme il y a deux façons de faire Marvel, puisqu'en fait, c'est une question de droit de personnage.
Oui, complètement. Et c'est concomitant. Mais justement, ouais. Est-ce que c'est pas ça qui crée aussi cette réaction et qui...
Mais en fait, si le simple fait que Venom existe et que le simple fait que Spider-Man existe et qu'on te dit, on va peut-être les mettre dans un film, on va faire n'importe quoi avec, tu vois, mais on va les mettre dans un film et qu'en fait, les gens font, oh putain, il va y avoir un film avec Spider-Man, il va faire un film avec Venom, alors qu'en fait, ils en ont vu des films avec Spider-Man, ils en ont vu des films avec Venom, mais en fait c'est de la merde.
Oui, mais
ils
pas ensemble.
C'est de la merde, tu vois. Bah si, Spider-Man 3. Donc voilà, mais tu vois, c'est en fait vraiment l'idée de faire du cinéma par réseau social, c'est ça en fait qui est complètement dingue. Et autant en fait le MCU finalement arrive à créer des événements, parce que moi je pense qu'il y a un peu plus que le shawarma. Je pense que les gens, quand ils voient le marteau de Thor à la fin de Captain America ou ce genre de truc, ou vice versa, je sais plus, enfin bref, ils sont contents, quoi.
T'es pré-Avengers, en fait, je parle surtout de ce qui s'est passé après,
certes,
tu vois,
mais en tout cas ils arrivent plus ou moins à générer une certaine excitation sur des bandes annonces, sur des machins, etc., etc. J'ai l'impression que tous les autres personnes qui essayent de suivre le même chemin, en fait, ne créent rien, quoi.
Il y a réflexe pavlovien qui fait que les gens ils vont en salle.
Et qu'ils attendent le générique de fin. Mais
c'est vrai qu'en dehors de ça, je sais pas.
Et sinon, ça dure une heure et demie. On n'a pas vraiment le temps de se faire chier, à part qu'on est en train de se demander pourquoi on regarde ça. Et en gros, il n'y a pas d'action. Ça, faut le dire aussi, hein, peut-être aux gens, parce qu'il y a un moment donné, t'as la séquence d'action finale dans l'église, voilà, qui est un peu mieux foutue, je trouve, quand même, que celle du précédent, parce que le précédent, c'était vraiment une bouillie de
numérique.
Non, j'allais pas dire bouillie numérique, mais une bouillie, en fait, de symbiote, en fait. Donc, d'un seul coup, tu comprenais plus quel perso était quel perso et comment ils se foutaient sur la gueule, puisque t'avais l'idée que chaque créature quittait le corps de son hôte pour revenir dedans. Donc, en fait, c'était vraiment irregardable, tu vois. Là, c'est un peu plus soigné, c'est un peu plus, voilà, c'est pas excitant, hein, pour dessous, faut être clair, mais ça tient un peu plus la route. Donc moi, quelque part, j'ai un peu plus une préférence sur celui-là que le précédent. Maintenant, c'est indigne de tous les talents réunis, et j'aimerais bien que Tom Hardy prenne une douche aussi, parce que là, à un moment donné, il y a un truc où je me dis, c'est pas possible, il faut se laver, là. Tu vois, je sais pas si leur délire à eux, c'est de se dire, en fait, Eddie Brock, il est un peu machin comme ça, parce que, en gros, il a Venom sur lui, et qu'il est tout pouilleux, tu fais, non, il y a un problème. Dans Mad Max, ça fait sens, mais pas là-dedans, quoi. C'est horrible, enfin bref. Moi, ça m'a gêné pendant tout le film.
Alain est en train de décéder.
L'hygiène de Tom Hardy dans ce film.
C'est vrai que c'est pas la première fois que tu le dis à la sortie
de
déjà.
Farine, tu mets du beurre.
Ah non, mais l'hygiène de Tom Hardy dans ce film, elle me répugne. Je le trouve répugnant. Moi, j'aime bien Tom Hardy. Hein,
ça, c'était une petite chose, quoi.
Voilà. Non, bon, d'accord.
Alors, je pense qu'on va pouvoir conclure sur l'hygiène de Tom Hardy. Alors, finalement, le fait qu'il y ait un troisième volet à ces films, c'est pas encore sûr.
On n'écoutera pas Julien si on nous dit qu'il veut le voir.
Moi, j'y vais, c'est James, j'y vais, c'est James Cameron.
On fera ta tarte, on fera ta tarte.
Il y a des chances que...
On fera ma tarte.
Non, je ne sais pas qui ça sera, mais en tout cas, la porte est ouverte. En revanche, le Sony, Universe, tout ça.
Ah oui, il y en a d'autres.
Oui, ils ont d'autres films sur le feu, puisqu'il y a Morbius qui va sortir l'année prochaine.
Ça, ça a l'air super. Avec,
attends, avec Jared Leto, qui est quand même le pire acteur
parfait,
au monde.
Hein.
Et ça, peut-être que ce sera drôle. Enfin,
ouais.
J'ai envie qu'ils fassent des gros nanars là. Ils arrivent à même ça, ils arrivent à pas à l'éviter quoi. Ils font suer hein, à tout faire attention à tout là tout le temps. Donnez-nous du nanar enfin. Vous avez là, ils ont le potentiel pour nous offrir un beau nanar qui pue. Donnez-nous un nanar qui pue. Ils sont la fausse sceptique comme il dit Simon là. Non, mais donnez-nous, c'est ce qu'on fait.
Voilà, et il y a Michael Keaton aussi qui jouera dans Morbius.
Oh non, putain.
Ah bon, mais il est pas dans l'MCU lui aussi déjà. Enfin bon.
Oh là, ça me déprime.
Et puis en 2023, Kraven the Hunter.
Formidable.
Formidable. Vous êtes ravis de l'apprendre.
Voilà.
J'ai hâte.
Bon, en attendant, si vous voulez quand même, malgré tout, vous faire votre propre avis sur Venom, Let There Be Carnage, bien, le film est en salle depuis ce mercredi 20 octobre.
Il va y avoir personne pour le répondeur. Quoi. C'est pas possible.
Si, c'est pas impossible.
Tu crois ? On verra.
Alors justement, on ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous on a dit, vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on recevait Julien Maury et Alexandre Bustillo qui venaient nous parler de leur dernier film Candisha. Il y avait tellement à dire qu'on les avait gardés 1h30 en interview. Et vous, dans tout ça, vous chers auditeurs, est-ce que Candisha vous a inspiré ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Salut l'équipe de Capture Mag. Et moi je suis assez d'accord avec Julien et Stéphane. En fait, je trouve que le problème, et c'est souvent le problème chez Maury et Bustillo, c'est que il y a un scénario un petit peu bancal et que je trouve que ouais, toute la mythologie autour de leurs personnages principaux et en l'occurrence de Candisha, de la figure horrifique du film, est un petit peu bancale, et c'était un peu le cas déjà dans Livid. Et je trouve que il devrait peut-être s'entourer d'un troisième auteur avec eux pour muscler tout ça, parce que pour le reste, les acteurs jouent plutôt bien. Je trouve que notamment pour un film français sur la banlieue, ça fait jamais cliché. Je trouve que les dialogues sont plutôt assez bons. Les trois actrices, elles sont un peu méconnues, mais elles déboîtent. Maury et Bustillo ont tellement une culture cinématographique de dingue que je pense qu'ils savent jongler entre différents styles et différents genres et ils s'en amusent beaucoup. Dans l'ensemble, c'est un bon petit film de genre français, ça augure du meilleur pour ce style-là et on espère qu'ils vont continuer et que leurs prochains seront encore de mieux en mieux parce que moi je les soutiens. Voilà, c'était tout pour moi. À bientôt l'équipe Capture Mag.
Et ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Marie, Stéphane, merci.
Merci Clémence.
Merci Clémence.
C'était parfait, c'était magique. Alain, à la technique, merci aussi.
Merci à vous tous.
Et puis merci à vous qui nous écoutez, qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suiviez déjà, un petit rappel, on a changé de flux pour ce podcast. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon, ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, il y a plein d'autres façons de nous aider. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast, surtout si vous venez de vous réabonner au nouveau flux. Hein, on a besoin de nouvelles étoiles pour nous faire remonter dans les classements. Et puis enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve mais dans quelques jours parce que cette semaine, on a deux émissions pour vous en stock. À très vite.
Restez pas là, y'a rien à voir, dégagez. Alors, tu prends 100 grammes de beurre, un peu fondu, d'accord, okay. Tu mets à peu près 300-400 grammes, moi je le fais un peu au pif de farine, voilà, d'accord. Tu mélanges bien, tu mets un peu d'eau, un demi-verre d'eau, pas plus, hein, parce qu'après c'est trop collant, c'est pas pratique. T'étales ta pâte, puis tu la fais cuire un petit peu au four, 160 degrés, hein, chaleur tournante si tu as. Parallèlement, tu prends une courge, tu la coupes en petits morceaux, tu la fais cuire à la vapeur, comme ça, d'accord. Bien cuite, hein, la courge. Hein. Une fois qu'elle est bien cuite, tu vas l'assaisonner, tu mets, alors ça c'est selon le goût, moi j'aime bien la noix de muscade, vous aimez bien la noix de muscade, c'est bon la noix de muscade. Donc tu mets un peu de noix de muscade et tout dedans, tu l'écrases, ok, d'accord. Tu mets du poivre, évidemment, tu écrases au fond de la pâte qui est un peu cuite, mais pas trop, faut pas trop cuire la pâte et tout, surtout quand c'est une pâte maison comme vous venez de la faire. Et par-dessus, tu mets le fromage à raclette, voilà, et tu refais cuire un petit peu grillé dessus. C'est très bon, vous verrez.
Bah ça donne vachement plus envie que Venom 2.
Bah attends, qu'est-ce que tu crois ?
J'ai super faim maintenant.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.